va s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Et on va prendre nos Bibles dans le livre de Josué, chapitre 1. À partir du verset 3. Amen. Alléluia. On l'a trouvé? Josué, chapitre 1, à partir du verset 3 jusqu'au verset 9. C'est quand même une bonne lecture. Le Seigneur dit dans sa parole, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Éthiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. » Verset 5. « Nul ne tiendra devant toi. » Tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon tout la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Au verset 9, il dit encore, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ne t'ai-je pas donné cet ordre? C'est un ordre que je te donne. Amen. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Vous savez que nous avons commencé, ça fait quelques dimanches maintenant, c'est vrai qu'on a eu des invités qui sont venus et qui nous ont puissamment bénis. On a eu le pasteur Peter Akimwale qui est venu, qui a donné un très très bon message et surtout aussi les moments du vendredi, les moments de prière. On a eu des bons moments, des puissants moments. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui viennent les vendredis. Mais bon, pendant le mois d'août, là, on rentre dans la période des vacances. Donc, on va essayer de prendre de vraies vacances. Hein. Donc, on va juste avoir les cultes du dimanche pendant tout le mois d'août et reprendre les réunions de prière le vendredi à partir du mois de septembre. Amen. Voilà. Mais on a eu quand même vraiment de bons moments et vendredi passé aussi, on a eu de très, très bons moments. On a eu également le serviteur de Dieu Samuel Eli qui est venu, qui nous a apporté aussi un très bon message, amen, qui a fait énormément de bien à l'église et tout va dans la même direction. La direction selon laquelle le temps est arrivé pour nous d'entrer véritablement dans nos promesses et de saisir les promesses de Dieu pour nous. Amen. Et nous avons commencé avec moi une série sur ce que j'appelle les leviers du succès. Amen. Les leviers du succès, c'est-à-dire les instruments, les choses qu'on utilise pour pouvoir avoir du succès dans sa vie chrétienne, dans sa vie en général. Amen. Et dans ces leviers-là, nous avons vu qu'il faut savoir se fixer un but et avoir des objectifs. Tout commence par le fait que tu as un objectif ou tu as un but qui est fixé. Il faut avoir un objectif à atteindre. Ça, c'est très important. S'il n'y a pas d'objectif, c'est comme si la force n'est pas canalisée. Tous les efforts qu'on fait peuvent aller dans tous les sens, mais ce n'est que lorsqu'on a un objectif que véritablement nous sommes en train d'avancer vers quelque chose. Nous avons pris l'exemple de personnes qui jouent au football et on dit, mais s'il y a un match, mais qu'il n'y a pas de but, le match n'a plus de sens. Il n'y a pas de poteau pour faire passer la balle, donc il n'y a pas de but. Donc les gens courent, ils courent, ils courent sur le terrain, ils courent, ils courent, ils courent, ils courent, ils courent. À un moment, le football ne serait plus le football. Parce que ce qui fait la force du football, c'est l'objectif. L'équipe, chaque équipe a pour objectif d'aller mettre la balle dans les poteaux adverses. Et les autres, ils ont pour objectif d'aller aussi mettre la balle dans les poteaux adverses et d'empêcher les autres de mettre la balle dans leurs poteaux. Donc ça, c'est un but. Quand quelqu'un a un but dans sa vie, il sait vers quoi il court. Et il ne peut pas y avoir de succès sans objectif, sans but. Ensuite, nous avons vu que même quand nous avons fixé un but, même quand nous avons un objectif, il faut le poursuivre. Il faut être prêt à payer le prix pour que cet objectif-là puisse se matérialiser. Il faut être prêt à faire des efforts pour que cet objectif-là puisse se concrétiser. Amen. Et aujourd'hui, je veux parler sur un autre levier qui est très important. Peut-être qu'on ne le prêche pas souvent à l'église. On ne le prêche pas souvent, mais c'est très important aussi quand même. C'est qu'il faut avoir du courage. Alléluia. Dis à ton voisin, aie du courage. Aie du courage. Amen. Sois courageux. Sois courageux. Hein, si c'est une femme, sois courageuse. Alléluia. Verset 5, il dit, « Nul ne tiendra devant toi, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. » Amen. « Je ne te délaisserai point. » Je ne t'abandonnerai point. Ça, c'est la promesse. Gloire à Dieu. Nous avons tous reçu cette promesse-là. Dieu ne nous abandonnera pas. Il ne va jamais nous délaisser. Mais, il y a un mais. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 6, il dit quoi? Il dit, fortifie-toi et prends courage. Donc, il y a une partie qui incombe à Dieu. Il ne va pas nous abandonner. Il ne va pas nous délaisser. Mais quand même, il nous demande de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Il dit, fortifie-toi et fais quoi? Et prends courage. Alléluia. Fortifie-toi et prends courage. Après, il dit ensuite à Josué, « Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Parce que tu as une grande responsabilité. À partir du moment où tu t'es fixé un objectif, où tu es prêt à poursuivre cet objectif-là, il faut apprendre une autre chose. C'est il faut apprendre à te fortifier et il faut avoir du courage. Il faut avoir du courage. Vous savez, Dans l'entrepreneuriat, il y a des chiffres qui sont très parlants. Vous avez 80% des personnes qui commencent une entreprise. 80% des personnes qui commencent une entreprise ferment leur entreprise avant les 2 ans de cette entreprise-là. Si vous prenez 100 personnes qui commencent une activité ou qui commencent une entreprise, vous attendez 2 ans, vous revenez, vous allez voir parmi les 100 personnes là, il n'y en a que 20 qui continuent, il y en a 80 autres qui ont abandonné, qui ont laissé tomber. Quand les gens prennent des résolutions, des décisions, si des personnes prennent par exemple la décision de changer par exemple de métier ou de faire un effort quelconque, que ce soit peut-être pour leur physique ou pour des objectifs qui se sont fixés ou arrêter de fumer ou ce genre de choses. Beaucoup de personnes commencent, mais ils sont toujours très peu à aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que les gens ont du mal à se fortifier et à prendre courage. Vous voyez, Dieu a dit à Josué, « Je serai avec toi. » Amen. « Nul ne tiendra devant toi. Je serai avec toi. » Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Il dit, mais quoi? Fortifie-toi et prends courage. Pourquoi? Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Parce qu'il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Quand tu n'es pas seul, tu as beaucoup de sources de découragement qui viennent. Tu as beaucoup de personnes qui te disent des choses pour te casser, pour te ralentir, pour t'alourdir. Et c'est ça qui fait la différence entre un leader et un suiveur. Le suiveur, il a besoin qu'on le fortifie. Le leader, il sait se fortifier lui-même. Après qu'il ait passé une journée où on a passé son temps à le casser, à lui dire des choses, à lui dire non, ça ne va pas aller, machin, à avoir toutes sortes d'informations qui vont à l'encontre des objectifs qu'il s'est fixés, il rentre chez lui, il est découragé, Il est affaibli, mais il a la capacité de se fortifier. Et le lendemain, quand il se lève pour partir, c'est comme si il repart avec l'énergie, il est galvanisé. Alléluia. Comme si de rien n'était. Pourtant, il a entendu des choses. Il y a des personnes, je me demande, mais comment des fois certains hommes d'affaires font? On leur dit, ta boîte est au bord de la faillite. Les banques ont déjà envoyé des huissiers, machin, il y aura ci, il y aura ça. Ou bien l'industrie, mais la personne, elle arrive à dormir. Certains, il y en a qui font tout de suite des dépressions, il y en a qui se suicident. Vous avez entendu ça, non? Il y a des gens qui se suicident. Il y a des chefs d'entreprise qui se suicident. Il y a des agriculteurs qui se suicident. Il y a des leaders qui se suicident. Il y a même des pasteurs qui se suicident. Aux États-Unis, maintenant, je ne sais pas, c'est devenu une mode. Au début, c'était la mode des divorces. Des choses qu'on ne voyait pas dans l'église. Amen. Des choses qu'on ne voyait pas dans l'église, les divorces. Après, les divorces ont commencé à arriver. Pourquoi? Parce que les divorces, c'est quand tu es découragé. Quand tu es découragé. Quand tu n'as plus de force. Mais Dieu dit, fortifie-toi et prends courage. Il n'a pas dit, je vais te fortifier. Il n'a pas dit, je vais te fortifier. Donc celui qui s'attend à ce que la force là vienne du ciel, comme ça, il y a des gens qui ont trop vu les films. Ils ont trop vu Superman ou Iron Man. Quelque chose, man. Donc même quand il prie, là, il s'attend à ce qu'une décharge d'énergie électrique là, descende, touche sa tête jusqu'à la plante des pieds, remonte. Après, il y a comme des étincelles. Non, ça, c'est dans les films. Et puis, oui, effectivement, de temps en temps, le Saint-Esprit également va visiter quelqu'un et va le fortifier. Mais cette énergie-là, c'est pour faire démarrer un moteur. Alléluia. Qui est à l'intérieur de toi et qui doit fonctionner correctement et dont tu as la responsabilité. Et il a insisté dessus. Il dit au verset 6, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Au verset 7, il dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Oui, il dit, fortifie-toi seulement. Le seulement là est important. Fortifie-toi seulement. Ça veut dire que tu dois éviter toute source de distraction. Tu dois éviter tout combat inutile. Tu dois éviter toute conversation inutile. Tu dois éviter tout palabre inutile. Tu dois éviter toutes sortes de choses qui drainent ton énergie, qui drainent ton attention, qui drainent ta force, pour pouvoir te concentrer sur le fait de te fortifier. Fortifie-toi seulement. Ça fait partie de la promesse. Il dit, je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Tant que tu vivras, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Je serai avec toi. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Fortifie-toi seulement. Fortifie-toi seulement. Ça veut dire quoi? Fortifie-toi seulement et laisse-moi faire le reste. Et laisse-moi agir. Fortifie-toi seulement et laisse-moi agir. Fortifie-toi seulement et laisse-moi faire le combat. Comme il a dit, moi je combattrai pour toi et toi garde le silence. Des fois le fait de parler t'affaiblit. Alléluia. Quand la situation te dépasse, et que toi-même, tu vois que ça te dépasse, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. C'est la meilleure manière pour toi de te fortifier. Pourquoi? Parce que quand tu vas parler, tu vas aggraver la situation. On dit, tu n'as rien à dire. Non, je n'ai rien à dire. Je préfère ne pas parler. Pourquoi? Parce que je veux rentrer dans un mode maintenant où je me fortifie. Les gens qui saisissent les choses, ce sont des personnes qui savent se fortifier. Oh my God. Vous savez, même vous prenez le sport, vous prenez le sport professionnel, vous prenez les activités, les entreprises, l'entrepreneuriat, vous prenez tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, à tout moment, les gens sont sujets à des découragements. Ils sont sujets à l'envie d'abandonner. Et il y a un homme de Dieu qui a dit une fois, celui qui abandonne ne gagne jamais. Quelqu'un qui abandonne ne peut pas gagner. C'est impossible. Celui qui abandonne ne gagne jamais. Donc, il faut savoir une chose, c'est que dès le moment où tu abandonnes, c'est que c'est impossible pour toi de gagner. Donc, tu dois faire quelque chose qui va faire que tu ne vas pas abandonner. Et cette chose-là, il ne faut pas dire non, Dieu m'a abandonné. Non, il dit je ne t'abandonnerai pas. Donc, Dieu n'est pas un menteur. Il a dit je ne t'abandonnerai pas. Mais c'est toi qui peux penser que Dieu t'a abandonné si tu es trop faible. C'est pour ça qu'il dit fortifie-toi seulement. Dis à ton voisin, fortifie-toi seulement. Et aie bon courage. Alléluia. Donc Dieu parle à Josué et il va dire, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ne te détourne ni à droite ni à gauche. Sois fidèle, fortifie-toi, continue jusqu'au bout et c'est là que tu réussiras. Ensuite, il dit au verset 9. Verset 9, qu'est-ce qu'il dit? Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Amen. Pour s'assurer que Josué a bien compris. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? C'est un ordre. Comme un verset dans le livre de Psaume, je crois que c'est Psaume 68, où il dit, ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. C'est un ordre. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Amen. Fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Touche ton voisin encore, dis-lui, fortifie-toi et prends courage. Donc, tu prends le dictionnaire et puis tu regardes le courage, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que le courage? Et tu vois que, en fait, le courage, c'est la capacité de contrôler la peur, amen, la douleur, le doute et l'incertitude. Le courage, c'est la capacité de contrôler la peur, amen, la douleur, le doute et l'incertitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous savez, tout le monde a peur dans sa vie. Ça arrive à tout le monde d'avoir peur. Mais l'homme qui est courageux, c'est la personne qui va pouvoir surmonter sa peur. Amen. Il arrive à toute personne, à un moment de sa vie, d'avoir mal, d'avoir des douleurs. Mais la personne qui est courageuse, c'est la personne qui apprend à surmonter la douleur. Amen. De la même manière, il arrive à toute personne à un moment de sa vie de douter. Est-ce que véritablement c'est à ça que je suis appelé? Est-ce que véritablement c'est ce que je dois faire? Est-ce que véritablement c'est comme ça que je dois procéder? Est-ce que je ne me suis pas trompé? Mais même si tu ne t'es pas trompé, le doute de t'être trompé va venir quand même. Il y a des gens qui pensent des fois que parce qu'ils se posent la question, donc c'est que en fait, ils s'est trompé. Mais non. Même si tu es, regardez, même Jésus, qui est le Fils de Dieu, le diable a voulu le faire douter sur sa divinité. Il lui a dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, ordonne à ses pierres de devenir du pain. Ça veut dire qu'il pouvait douter du fait qu'il soit le Fils de Dieu. Mais tout de suite, il a réagi en disant, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain. En fait, il est en train de lui dire, écoute, moi là, je ne suis pas faible. Je ne me nourris pas seulement de pain. Ça veut dire que je ne nourris pas seulement l'homme extérieur. Je ne nourris pas seulement l'enveloppe que tu vois là. Mais je mange une nourriture qui permet à l'homme qui est à l'intérieur de moi d'être fort. Donc, ce n'est pas tes petites pensées là et tes petites paroles qui vont me faire douter de qui je suis. Oh my God. Hallelujah. Ce n'est pas ces choses-là qui vont me faire douter de qui je suis.
C'est pas ces choses-là qui vont me faire douter de ce à quoi je suis appelé. Et des choses que je dois faire, des choses que je dois réaliser. Même si la saison est difficile, même si le temps est dur, mais je sais comment me fortifier et je sais comment garder le courage.
Alléluia. J'ai vu également que courage, ça veut dire également bravoure, ça veut dire vaillance, ça veut dire être intrépide. Amen. Être vaillant. Quand tu te lèves pour faire quelque chose, tu ne le fais pas comme si tu étais déjà vaincu. Même si tu doutes, mais quand tu parles, parle avec assurance. Ou tu le fais avec assurance ou tu ne le fais pas. Mais il y a une manière de faire. Des fois, c'est comme si même tu es en train d'encourager le diable, des fois. Vous savez, l'homme intérieur, le diable n'a pas vraiment accès à l'homme intérieur. Le diable n'a pas accès à l'homme qui est à l'intérieur de nous. Il a accès à l'homme, il observe l'homme extérieur. Et c'est en fonction de ce qu'il voit de l'homme extérieur que lui, le diable, il sait si les choses qu'il est en train de faire, si ça marche ou si ça ne marche pas, si ça réussit ou si ça ne réussit pas, c'est de l'extérieur. Par notre attitude, par notre comportement, par notre manière de faire. C'est pour ça que vous avez un verset dans la Bible qui dit « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Ça veut dire que quand tu parles, en fait, tu trahis ton état intérieur. Tu trahis ton état interne. Quand quelqu'un est faible, quand il va parler, je ne sais pas, peut-être, on verra. Il ne parle pas avec assurance. Parce que la foi n'est pas là. Donc comme il est faible, la faiblesse va se transcrire à travers sa parole. Or la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et la Bible dit ensuite que celui qui sait l'utiliser en mangera les fruits. Ça veut dire qu'il y a une manière d'utiliser sa bouche pour que ça provoque la vie ou que ça provoque la mort. Mais quand quelqu'un est découragé, tout ce qui sort de sa bouche provoque la mort. C'est pour ça qu'il dit, fortifie-toi seulement et prends courage. Vous savez, le monde spirituel est régi par la force. Ça, je pense que c'est une des premières choses que toute personne qui veut faire le combat spirituel doit savoir. C'est que le monde spirituel est régi par la force. C'est la force seulement qui régit le monde spirituel. Quand vous prenez, par exemple, dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse, chapitre 12, verset 7. Apocalypse, chapitre 12, verset 7. La Bible dit... Vous avez trouvé Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7, en parlant du ciel. Amen. Vous avez trouvé. La Bible dit, il y eut guerre dans le ciel. Amen. Il y eut une guerre dans le ciel. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Amen. Donc, il y a eu quoi au ciel? Une guerre entre le dragon et ses anges qui ont combattu contre Michel et les anges de l'Éternel. Mais qu'est-ce qui s'est passé au ciel? Les anges, c'est-à-dire le diable et ses anges, ils n'ont pas été les plus forts. Et c'est parce qu'ils n'ont pas été les plus forts qu'ils n'ont plus eu de place au ciel. Vous vous imaginez s'ils avaient été les plus forts? S'ils avaient été les plus forts, qu'est-ce qui allait se passer? Ils allaient prendre le contrôle du ciel.
Donc, dans le monde spirituel, c'est une question de force. La guerre a été gagnée par l'Éternel, par Michel et ses anges, et par l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il était plus fort que le diable. Amen. C'est pour ça que je dis, c'est une vérité que nous devons savoir pour toute personne qui veut faire le combat spirituel. Aucun démon ne part par pitié. Aucun démon ne part parce qu'il est, par fatigue. Il y a des gens qui disent, il va faire jusqu'à quand il sera fatigué, il va me laisser. Il ne va jamais te laisser. Il ne va pas te laisser. Même jusqu'à ta tombe, même, il ne va pas te laisser. Il y a des gens qui disent, non, je vais faire pitié. Comme ça, à un moment là, je vais tellement faire pitié que ils vont finir par me donner. C'est comme quelqu'un qui dit, oui, et il y a beaucoup de personnes qui ont cru ça. Je ne sais pas, à un moment, moi-même j'ai cru ça, que le bac, si tu échoues 7 fois, la 7e fois, on te donne le bac. C'était une idée qui était bien répandue, que tu passes le bac, une première fois tu n'as pas, deuxième fois tu n'as pas, troisième fois tu n'as pas, la 7e fois là, même si tu échoues, on te donne quand même. Et après je me suis rendu compte que c'était faux. Si tu échoues 7 fois, on ne va pas te donner le bac, par pitié. Pourquoi? Ça n'existe pas, les diplômes par pitié, la qualification par pitié, ça n'existe pas. Dans le royaume de Dieu, les choses que nous obtenons, on ne les obtient pas par pitié. On ne les obtient pas parce que Dieu a pitié de nous. On les obtient pourquoi? Parce qu'on est capable de les saisir. Il a dit à Josué, il dit, tout lieu que foulera tes pieds, je te le donne en héritage. Mais il n'y a aucun lieu où il est arrivé, où les propriétaires du lieu lui ont dit, bon, on t'attendait, Dieu nous avait déjà prévenu que vous deviez venir, donc vous êtes arrivé, on va prendre nos affaires, on va partir. Ça, ça n'est jamais arrivé. Même si Dieu leur a donné, à chaque fois qu'ils ont dû entrer dans un lieu et prendre possession de ce lieu, qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Ils ont dû combattre. Ils ont dû combattre. Et quand tu combats, c'est qui gagne le combat? C'est celui qui est le plus fort. Ça demande du courage. Alléluia. Ça demande du courage. Luc chapitre 11, versets 21 à 22. Pour illustrer encore sur la force. Luc chapitre 11, versets 21 à 22. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? La Bible nous dit que lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Amen. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait, il distribue ses dépouilles. Amen. Donc, quand quelqu'un est fort, il est chez lui, il est tranquille. Tant que tu es le plus fort, tu es tranquille. Mais si un plus fort que toi vient, il va distribuer les choses que tu avais mises en sûreté. Est-ce que vous me suivez? C'est ce qui dit. C'est le monde spirituel est régi par la force. Tu es fort, tu es tranquille. Tu es faible, c'est là que les problèmes commencent. Donc, il dit, moi, je te donne un ordre. Fortifie-toi seulement. Fais attention à ton état. Sois courageux. Sois fort. Sois courageux. Sois fort. Alléluia. Et si tu es dans une passe difficile, si tu es dans une passe où tu connais le découragement, si tu es dans une passe où les choses te résistent, n'abandonne pas. Fortifie-toi et prends courage. Alléluia, parce que tu es capable de le faire. C'est pour ça que Dieu te dit de le faire. Vous voyez, le courage et la force vont de pair. Ils viennent ensemble. Ce sont des leviers puissants du succès avec le travail. Quelqu'un qui n'est pas courageux, il va difficilement réussir. Quelqu'un qui n'est pas fort, il va difficilement réussir. Quel que soit le domaine dans lequel tu es, il faut que tu sois fort dans ton domaine si tu veux réussir. S'il y a quelqu'un qui est plus fort que toi, il va prendre tous les marchés. S'il y a quelqu'un qui est plus fort que toi, il va réussir. S'il y a quelqu'un qui est plus fort que toi, il va tout arracher. Et puis, il ne pense pas qu'il va avoir pitié. Il va dire, comme j'ai pris assez, je suis rassasié, maintenant, il faut prendre les restes. Même les restes là, il va lutter ça avec toi.
Quand on dit c'est la loi du plus fort, oui, c'est la loi du plus fort. Les démons disent, Jésus, on le connaît. Paul, on sait qui c'est. Mais toi là, tu es qui?
Mais comme ce jour-là, les démons étaient plus forts qu'eux, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils les ont frappés.
Et les gens qui étaient à la base, ils étaient partis chasser les démons, non?
Mais c'est les démons qui les ont chassés.
Ils ont couru, ils ont laissé leurs chaussures derrière. Ils ne savaient même plus où ils étaient. C'est pour ça que Dieu dit, je t'ordonne d'être puissant. Je t'ordonne d'être fort. C'est un ordre. C'est pour ta propre sécurité. C'est pour ton bien-être. C'est pour toi-même. C'est pour que tu sois à l'aise, que tu sois maître de ton destin. Fortifie-toi. Si tu ne sais pas le faire, apprends à le faire. Apprends à te fortifier. Il y a des gens toujours qui disent, oui, j'étais chez moi, je ne me sentais pas bien, personne ne m'a appelé. My God. C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un t'appelle pour te fortifier. Non, ça va aller. Ah, vraiment, ma soeur, que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, là, tu m'as fortifié. Ma chère soeur, laisse-moi te dire, si tu attends les autres pour te fortifier, peut-être ça va arriver un moment, mais un moment, tu vas rester seul. Parce que les gens, quand tu dois fortifier quelqu'un là, écoutez-moi, mais quand tu fortifies quelqu'un, c'est comme si tu prends une partie de ta force pour donner à la personne. Généralement, quand tu appelles quelqu'un qui dit, tu appelles quelqu'un, la personne dit, je suis découragé. Hein? Et puis toi, le Saint-Esprit te dit, bon, il faut l'encourager. Hein, n'est-ce pas? Donc tu commences à encourager, tu encourages. Tu envoies, elle envoie ça. Tu dis non, la Bible dit, et puis tu encourages. Finalement, quand vous raccrochez là, toi-même là, tu commences à sentir une sorte de découragement. Tu as besoin que quelqu'un aussi t'appelle toi aussi. Donc la personne que tu encourageais là, normalement, quand toi tu as fini de l'encourager et que elle a fini de te décourager, quand vous raccrochez là, normalement, elle doit maintenant te rappeler derrière. Pour t'encourager maintenant, pour dire, ah vraiment, j'étais découragé, tu m'as encouragé. Mais laisse-moi te dire que vraiment, tu es une femme bénie. Tu es remplie du Saint-Esprit. Si tu m'avais pas... Il faut qu'elle t'encourage aussi. Amen. On a tous besoin d'être encouragés. Maintenant, le leader, celui qui doit réussir, celui qui doit aller loin, celui qui doit faire des choses, celui qui doit accomplir des choses, quand il regarde ici, il n'y a personne pour l'encourager. Il regarde là, il n'y a personne pour l'encourager. Il regarde devant, il n'y a personne pour l'encourager. Derrière, il n'y a personne. Il faut que lui-même, il apprenne à s'encourager et à se fortifier. C'est ça qui faisait la différence. C'est ça qui fait la différence entre les hommes sur la terre. Vous avez des gens qui sont capables de s'encourager eux-mêmes. Et vous avez des gens qui sont incapables de s'encourager eux-mêmes. Ceux qui ne peuvent pas s'encourager, ils font quoi? Ils abandonnent. Mais ceux qui peuvent s'encourager, au moment où on pense qu'ils vont abandonner, il ressort quelque part là-bas, il est encore plus fort. Pourquoi? Parce qu'il a appris à se fortifier et à garder le courage. Alléluia. Vous savez, même dans le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, celui qui veut être le plus grand, il doit se faire le plus petit. Oui, le Seigneur a dit ça. Mais il a dit autre chose également dans le royaume de Dieu. Matthieu chapitre 11, verset 12. Qu'est-ce qu'il a dit concernant le royaume de Dieu? Il a dit, dans Matthieu chapitre 11, verset 12. C'est bon, vous avez trouvé? Amen. Il dit, depuis le temps de Jean le Baptiste jusqu'à présent,
Le royaume des cieux est forcé. Alléluia. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents. Oh, les violents, c'est ceux qui usent de force. Violent, c'est celui qui utilise la force. Quand quelqu'un utilise la force pour faire quelque chose, on dit qu'il est violent. Donc quand on dit depuis Jean le Baptiste, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent, ça veut dire que ce sont ceux qui utilisent la force, c'est eux qui s'emparent du royaume. Non, on ne s'empare pas du royaume par pitié non plus. Il y a des gens qui pensent, et ça, cette mentalité doit changer. Par la grâce de Dieu, ça commence à changer. Que quand tu viens devant Dieu, tu dois faire comme quand tu vas à la CAF. Quand je suis arrivé en France, quelqu'un m'a dit, tu sais, tu dois aller aux services sociaux. J'ai dit, c'est quoi les services sociaux? On dit, non, ici, là, c'est comme ça, hein, c'est bien. Tu vas, ils vont t'aider à payer ton loyer. J'ai dit, ah bon? Ils vont t'aider à te soigner, on te donne une carte. Avec ça, tu vas chez le médecin. J'ai dit, ah bon? On peut même te donner l'argent. J'ai dit, moi, je n'étais pas au courant. On a fait plusieurs mois ici. On ne savait pas qu'on devait aller aux services sociaux. Mais on dit, non, il faut aller aux services sociaux. Ils sont où? Ils sont là-bas. Donc, je m'habille pour aller aux services sociaux. La personne qui m'appelle les services sociaux, elle dit, tu vas où comme ça? Je dis, non, il m'envoie aux services sociaux. Ah non, pardon, il fallait te changer. Ah! Parce que j'étais... J'ai mis mon costume, ma cravate, ma chaîne, bien nippé, parfumé, tout ça, propre, brasé, tout. Elle dit, mais tu vas où? J'ai dit, au service social. Elle dit, pardon. Si tu vas là-bas comme ça, ils vont rien te donner. Il faut aller prendre un vieux jean là. T'as pas un vieux jean là? T'as pas un vieux tricot là? Donc, tu prends un vieux tricot et puis tu prends un vieux jean. Et puis maintenant tu viens, non, ça fait 3 jours, j'ai pas mangé, tu mets un peu de pâte dentifrice sur les bords de tes lèvres là, et puis comme ça les gens montaient. Donc il y a des gens, ils ont enregistré ça, et ils pensent que quand tu fais comme ça avec Dieu, là Dieu va avoir pitié de toi, et il va te... Non, le monde spirituel c'est pas comme ça. On dit, la Bible n'a pas dit, il n'a pas dit, depuis Jean le Baptiste, le royaume des cieux est forcé et ce sont les gens qui font pitié qui s'en emparent. Non. Alléluia. On n'a pas dit ça. Ça n'a rien à voir avec ton apparence extérieure. Ça n'a rien à voir avec ton apparence extérieure. Ça a tout à voir avec ce qui se passe à l'intérieur. Ça a tout à voir avec ce qui se passe à l'intérieur. Alléluia. Regardez dans Deutéronome chapitre 2, verset 24. Deutéronome 2, 24. Il dit, levez-vous. Partez, passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi d'Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Moi, je pense que quand Dieu te dit, lève-toi, va, passe le torrent, je t'ai livré cette personne-là en tes mains. Je pense que tu vas arriver et puis tu vas le trouver, on l'a attaché et puis il est couché comme un saucisson et il t'attend. Les anges sont déjà venus, ils ont fait le travail. Dieu dit, je t'ai donné, non? Mais il dit, commence la guerre. Alléluia! Commence la guerre! Alléluia! Tout son voisin, dis-lui, commence la guerre! Alléluia! Tu veux saisir le terrain? Commence la guerre! Tu veux entrer en possession de ta maison? Commence la guerre. Alléluia. Tu veux obtenir la promotion? Commence la guerre. Tu veux saisir la guérison? Commence la guerre. Tu veux avoir une délivrance? Commence la guerre. Alléluia. C'est quand tu gagnes la guerre que tu gagnes tout.
sinon tu perds la guerre, tu perds tout. Donc pour saisir les choses, ben il faut commencer là, la guerre. Oh, est-ce que quelqu'un qui est fait peut faire la guerre? Il ne peut pas faire la guerre. Ton Dieu là, on l'appelle l'Éternel des armées. Alléluia. On dit Dieu lui-même là, il fait la guerre. C'est un chef des armées. Il aime même faire la guerre. Dieu aime ça. C'est pour ça qu'il a dit, David, l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce que quand David se levait pour aller faire la guerre, Dieu même est content. Il dit, hey, ça va chauffer. On va faire des choses. On va réaliser. Chaque personne qui est en mode de conquête, chaque personne qui est en mode de il dit, tout lieu que tes pieds fouleront, je te donne comme héritage. Qui va pour saisir son héritage. Dieu est content d'être avec lui. Amen. Ça ne veut pas dire que parce que Dieu est avec toi, il n'y aura pas d'obstacle. Ça ne veut pas dire que parce que Dieu est avec toi, des ennemis ne vont pas s'élever contre toi. Ça ne veut pas dire que parce que Dieu est avec toi, des gens ne vont pas dire des choses contre toi ou te dire des choses ou essayer de te décourager ou que le diable ne va pas essayer. Des fois même parce que même Dieu est avec toi, le diable va te taper tellement fort. Il y a des gens là, le diable, il est tellement énervé. Vous savez pourquoi il est énervé contre eux? Les gens qui disent, mais moi je ne sais même pas ce que j'ai fait au diable. Et puis il est contre moi. Non, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que tu as fait au diable. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas encore fait. Lui, il est déjà énervé. Pourquoi? Parce qu'il connaît la prophétie. Qu'est-ce que Jésus lui avait fait? Rien. Mais elle était déjà fâchée à tel point qu'il voulait tuer Jésus, qu'elle était encore bébé. Pourquoi? Parce qu'il a entendu dire que voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il savait que celui qui allait naître là, on allait l'appeler le libérateur. Jésus n'avait pas encore chassé des démons. Jésus n'avait pas encore honni le diable. Jésus n'avait encore rien fait. Le diable était déjà en train de chercher à le tuer. À cause des choses qu'il allait faire. Non, le diable est chaud sur toi. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a des choses que tu dois faire. Donc, il va venir avec sa plus forte attaque. Il vient. Bah oh! Et il y a des gens, quand ça les touche comme ça, là, ils disent, la fin est sérieuse, c'est bon. Je m'en vais à la maison, c'est bon. Moi, qui m'a dit même? Qui m'a envoyé? Donc, c'est ça le ministère. Si c'est ça, je laisse en même temps. C'est bon. C'est ça l'intercession. Si c'est ça, je laisse en même temps. Il n'y a pas quelque chose que tu vas faire dans l'église ou pour l'église, dans le royaume. Où le diable ne va pas t'attaquer, il n'y en a pas. Même nettoyer là, des fois tu viens, tu es en train de nettoyer les puits, il envoie les attaques. C'est tout le monde. Le problème c'est que si tu ne prends pas courage, et si tu ne sais pas te fortifier, tu ne vas rien faire. Si tu ne sais pas te fortifier, et si tu ne prends pas courage, tu ne vas rien faire. Il y a des gens qui ont choisi la voie de la facilité en France. Il dit, mais au lieu de me lever tous les matins pour aller travailler là, on me donne autant quand je reste à la maison. Bon, peut-être qu'on ne me donne pas autant. C'est vrai que quand je travaille, je gagne un peu plus. Mais quand je travaille là, je n'ai plus la CMU. Donc quand je dois me soigner, je dois payer. Et puis quand les vacances arrivent, il y a un chèque là qu'on me donne, on ne me donne plus ça. Finalement, je me rends compte que quand je travaille, non, je ne suis pas à l'aise comme quand je travaille. Il préfère rester chez lui, tranquille. Il y en a d'autres qui font des enfants seulement. Ils ont attrapé un monsieur, il a quoi, 64 enfants. Il touche, il touche. il touche 28 000 euros ou 28 000 euros par mois. Ouais. Les gens l'ont attrapé. Mais je dis, mais la France, c'est spécial. Ils ont mis 10 ans avant d'attraper le monsieur, peut-être même 20 ans. C'est incroyable. Mais c'est dangereux. Tu penses que tu es en train de gagner, mais tu ne gagnes pas. Le monde, ce n'est pas pour les gens faibles. Nous avons un héritage. Il est réel. Nous avons un héritage. Nous avons un appel. C'est symbolisé par Canaan. Quand Dieu dit au peuple d'Israël, vous allez sortir de l'Égypte, vous allez traverser le désert, vous allez entrer à Canaan. Le Canaan, il est réel. Il est réel pour nous. Et le problème, c'est que des fois, plus tu te rapproches de Canaan, plus les sujets de découragement sont forts. Parce que le diable ne veut pas que tu y entres. Il y a des gens même qui ne croient même plus en Canaan. Ah, ils sont venus encore avec leur affaire de Canaan, là. J'ai tapé Canaan dans mon GPS, je n'ai pas trouvé. Ils n'ont qu'à me laisser tranquille. Ce n'est pas un endroit physique. C'est un endroit spirituel. Alléluia. Il faut atteindre une certaine dimension spirituelle pour pouvoir entrer là-bas. Nombre chapitre 14, verset 24. On va garder le doigt sur le verset 6 d'abord. Verset 6, Nombre 14, verset 6 à 9. Nombre 14, verset 6 à 9. La Bible dit: et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Noun, et Caleb, fils de Jephunné, déchirèrent leurs vêtements. Ils parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un très bon pays, est un pays très bon, excellent. Amen. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays. En fait, qu'est-ce qu'il dit? N'ayez pas peur d'eux. N'ayez pas peur. Car ils nous serviront de pâture. En anglais, ça dit, they will be like bread. Ils seront pour nous du pain. Ils seront du pain pour nous. Ils nous serviront de pâture. Ils seront pour nous comme du pain. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Amen. Dieu a dit plus tard au verset 24 concernant Caleb et Josué. Il a dit: et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, amen, et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Pourquoi? Parce qu'il a été animé d'un autre esprit. C'est quoi l'autre esprit? C'est un esprit de courage. Alléluia. C'est un esprit de courage. C'est un esprit de conquête. C'est un esprit qui le pousse à poser des actes pour entrer en possession de ces choses. Pas un esprit de peur. Les autres, ils avaient peur. La peur a fait qu'ils se sont vus comme des sauterelles. Le courage a fait que Caleb a vu les géants là comme du pain. Tu vois la différence? Les autres, ils ont dit, là-bas il y a des géants, des fils de géants. On est sûr qu'on était à leurs yeux comme des sauterelles. Donc l'esprit qui les animait a fait que eux, ils se sont vus comme des sauterelles. Donc en fait, qu'est-ce que tu es en train de dire? Il y a des gens qui se voient comme des sauterelles. Et ils sautent. Ils sautent. De services sociaux à services sociaux. Et ils sautent. D'aide en aide. D'aide en aide. D'aide en aide. Ils sautent. Ils sautent. Ils sautent. Et il y en a d'autres. Ils regardent les géants comme ça. Et puis qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient du pain. Ça nous servira de pâture, ça veut dire qu'on va manger. Donc il y en a qui regardent et disent, waouh, le pays est plein d'opportunités. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Il y a tellement de choses qu'on peut accomplir. Il y a tellement de choses qu'on peut réaliser. Il y a tellement de choses que je peux faire quand je suis animé d'un esprit de courage. Alléluia.
Même à un âge avancé, tu peux avoir toujours le courage. Regardez le même Caleb dans Josué chapitre 14 verset 10. Josué chapitre 14 verset 10. Josué chapitre 14 verset 10. Il dit maintenant, ça c'est Caleb qui parle, hein. Après qu'il ait dit, ce qu'il a dit chose plus tôt, que Dieu nous les donnera, il nous les mettra en pâture, ils seront pour nous comme du pain et ceci, cela. Plusieurs années sont passées et Caleb maintenant va parler. Et il dit ceci au verset 10. Il dit maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Amen. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors. Voyez, on ne parle pas de la force physique. Alléluia. C'est quelqu'un qui parle, il a 85 ans. Et il dit, j'ai autant de force que j'en avais alors. C'est-à-dire, il y a 40 ans, la force que j'avais il y a 40 ans, aujourd'hui là, j'ai autant de force qu'il y a 40 ans. Est-ce que vous pouvez comparer un homme de 40 ans à un homme de 80 ans? Mais pourtant, il y en a, hein. Il y a des hommes de 80 ans là qui sont plus vigoureux que des gens de choses de 40 ans. Dans ma salle de sport là, il y a un vieux là, quand il arrive, nous tous on se demande, mais ah, le vieux il arrive, il monte sur le tapis, il court, après il va, il prend les poids les poids lourds, il pompe, il fait, quand tu le vois même, tu dis, mais papy, 80 ans, il met son petit tricot, tu vois les tablettes de chocolat sur son... 80 ans. 80 ans. La dernière fois, ils ont montré un gars qui fait 100 ans. 102 ans, autre, il fait du vélo. 102 ans, il fait plus mieux le vélo même que d'autres. Va, vous prenez le vélo, ça va te laisser sur la route. Et tu en as d'autres là. Ils n'ont même pas 30 ans. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Personne est tout le temps fatigué. Personne n'a dormi. Je suis fatigué. Après, finalement, tu dis, mais en réalité, mais pourquoi Dieu dit, fortifie-toi, prends courage? Parce que quelque part, tu dois chercher à savoir d'où vient en réalité la fatigue. Parce qu'il y a des gens qui vont travailler le matin, travailler le soir. Ensuite, aller faire du sport, faire ceci, faire cela, tellement d'activités, et il ne va jamais dire dans sa bouche qu'il est fatigué. Et tu en as d'autres, ils ne font pas de sport, ils ne travaillent pas, il a un programme vraiment des plus relax, mais il est tout le temps fatigué. Il est fatigué. D'où vient la fatigue? Si la force est spirituelle, la fatigue aussi est spirituelle. Amen. Ça vient de ce qu'on appelle de l'homme intérieur. Amen. Quand quelqu'un vieillit, si il n'a pas l'esprit de force, il vieillit avec l'esprit de peur. Quand tu vieillis, tu aggraves en fait toutes les choses qui ont dominé dans ta vie, ça aggrave quand tu prends de l'âge. Quand quelqu'un est égoïste dans la vie, il vieillit, il devient un vieux égoïste. Quand quelqu'un est orgueilleux, en vieillissant, il devient un vieux orgueilleux. Quand quelqu'un est fatigué, en vieillissant, il devient un vieux fatigué. Il y a des gens même là, quand ils marchent, quand tu les vois en train de marcher, toi-même tu as déjà pitié d'eux. Tout est relâché sur eux-mêmes. Mais parce qu'ils accusent le poids de la vie. Hier, yeah, j'étais tellement surpris. J'ai vu une personne qui venait encore. J'ai dit, moi je suis des fois, j'étais surpris une fois par une personne qui marchait et puis elle était complètement courbée. Elle marchait, sa tête regardait le sol. Et puis j'ai dit, mais Seigneur, mais c'est quoi ça? Et le Seigneur m'a dit, c'est le poids de ses péchés. C'est le poids de ses péchés. Mais hier, yeah, c'est samedi, je crois, je partais à la poste. Et puis quand je venais, j'ai vu une personne. Sa tête était comme ça, tout son corps était comme ça. Et puis elle marchait comme ça. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Puis elle me dit, c'est un esprit de dépression. C'est-à-dire qu'elle est déprimée depuis trop d'années. La dépression qui commence d'abord par attaquer la tête là. Ça attaque aussi le corps. Quand ça reste longtemps sur quelqu'un, le physique même de la personne commence à ressembler maintenant à la dépression. Il y a des gens, quand tu les regardes, tu dis, on dirait que celle-là, elle est un peu dépressive. Normalement, c'est pas... La dépression, ça commence dans la tête. Quand quelqu'un est déprimé, il est tout de suite fatigué. Il est fatigué en même temps. La dépression, c'est quoi? Tu n'as plus de force pour faire des choses qui sont importantes pour toi. Donc quand Dieu dit « fortifie-toi », c'est une manière de te dire que tu as la possibilité de pouvoir lutter contre la dépression, contre l'esprit de la dépression. Alléluia. Regardez dans 2 Corinthiens, et on va lire, c'est le dernier passage que nous lisons ce matin. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. Il dit, verset 16, il dit quoi? C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Amen. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Il donne la raison. Il dit, voilà pourquoi est-ce qu'on ne perd pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Vous voyez, quand l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour, la personne ne perd pas courage. Bien que l'homme extérieur se détruise, bien que l'homme extérieur est affecté par les circonstances, bien que l'homme extérieur est affecté par les choses, l'homme intérieur a la capacité de pouvoir se renouveler. Donc, arriver à renouveler l'homme intérieur est le secret du courage. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un veut savoir comment avoir le courage? Hein? Parce que le courage est spirituel. Le courage, il est à la fois spirituel et mental. C'est pour ça que vous avez des gens qui vous disent, c'est le mental. Et les sportifs connaissent bien ça. C'est pour ça que beaucoup d'entre eux, ils ont la foi, ils prient. Beaucoup d'entre eux prient. Tous les sportifs, quand ils doivent aller faire un match de football, eux tous, avant d'entrer, ils prient. Avant de faire un match de tennis, il prie. Pourquoi? Parce qu'à un moment, on te dit, oui, le match a basculé. Pourquoi? Parce qu'il avait le mental. C'est-à-dire que tu vois la personne en train de s'effondrer, de s'effondrer, de s'effondrer. Puis à un moment, il commence à se relever. Et celui qui est en face, il ne peut rien faire. Il est là, il constate simplement que le gars est en train de se relever et que lui ne peut rien faire. On dit, quel mental? Vous avez déjà entendu ça, non? Dieu est capable de faire ça dans ta vie. Alléluia. Mais comme le temps est déjà arrivé, dimanche prochain, je vais vous expliquer comment, selon la parole de Dieu, comment dans la Bible, comment est-ce qu'on nourrit le courage dans la vie de quelqu'un. Alléluia. On va se lever, on va prier notre Dieu. Tu vas te lever, tu vas prier ton Dieu.